aujourd'hui, je vais essayer une moto très spéciale, la Honda Fireblade de l'équipe CBO, qui vient de réaliser un doublé au Mans aux mains de Mike Dimiglio, suivi de près par Alan Teucher.
On est en route pour le circuit de Nogaro. Alors, c'est un circuit que je ne connais pas du tout. Il est situé à peu près dans le sud-ouest de la France. Jamais roulé là-bas. Et on est attendu par l'équipe de championnat de France Superbike de Honda. L'idée, c'est de tester la Fireblade version Superbike France de Alan Teucher, pilote très très rapide. C'est intéressant parce que finalement, cette Fireblade, elle est un petit peu passée sous les radars. C'est dommage parce que depuis la fameuse RC30 et son V4, je crois qu'on peut dire que c'est la sportive Honda la plus extraordinaire qu'ils aient jamais produite. Sauf qu'elle est sortie en plein Covid, cette moto. Et finalement, depuis, dans les championnats, on voit en majorité des Yamaha R1 et des Yamaha R1. Donc l'idée, c'est de refaire un point sur cette moto qu'on a déjà essayé, Adrien et moi, de découvrir ses faiblesses, ses forces, et de voir comment Honda, en championnat de France Superbike, exploite cette moto.
Quelques heures plus tard, nous voilà dans le Gers. La ville de Nogaro compte parmi ses attractions le circuit de Nogaro, baptisé Paul Armagnac en l'honneur du pilote gersois, en partie à l'origine de la construction du circuit dans les années 60. Il développe 3,6 km et dispose de 14 virages techniques et rapides qui ont fait sa réputation. Sur place, l'organisateur CBO Track Days, spécialisé dans le roulage sportif de haut niveau, m'accueille pour ce test particulier. Rendez-vous au box 4 où l'équipe Honda prépare les motos. Le responsable de tout ça, Philippe De Souza, m'attend de pied ferme.
Salut Philippe.
Salut Bader.
Merci pour l'invitation.
Bah avec plaisir.
Alors je crois que tu es le team manager de cette équipe, ouais. CBO, donc, qui roule avec des Honda en championnat de France Superbike.
Ouais. C'est
donc
ça.
Je suis invité à faire quelque chose aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est?
Alors aujourd'hui, on t'a invité en fait pour comparer un petit peu la Fireblade d'origine, donc
d'accord.
Un modèle 2022.
Ok.
Et comme ça, tu vas pouvoir la découvrir et ensuite basculer sur notre modèle donc, de course.
D'accord.
Type donc, Superbike France. Ça sera juste la moto d'Alan Teucher en fait,
d'accord.
Avec laquelle il a fait la saison cette année.
Ouais.
Tu vas pouvoir voir un petit peu les différences avec l'électronique HRC et toutes les modifications qu'on amène nous sur les suspensions, sur le moteur, voilà, et tous les petits détails qu'on peut apporter,
d'accord.
Et les petits secrets aussi.
Les petits secrets,
ouais, les petits secrets.
Il y a les petits secrets. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est la Honda la plus rapide de France?
Ah, absolument, on peut le dire. Si on peut se vanter un petit peu, oui.
On peut se vanter un petit peu, je pense. D'accord. Facile à exploiter ou ça va être compliqué?
Ça, tu me le diras tout à l'heure. Moi, je le sais déjà, mais tu vas le découvrir.
Ah, ouais. D'accord. Ouais. J'ai peur.
On va se mettre en jambe avec la Fireblade standard. 4 cylindres en ligne de 217 chevaux pour 201 kg avec les pleins. Je vais l'essayer entièrement d'origine, au rétroviseur et support de plaque prêt et équipé de pneus slick Michelin.
Et voilà, direct, sortie de stand, Honda. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne connaissent pas, la moto est d'un naturel déconcertant. Qu'est-ce qu'elle est rassurante. Adrien et moi, on avait déjà essayé cette machine et on avait adoré le châssis. C'était un châssis Honda, prévisible, sain, simple. Tout ce qu'il faut pour rassurer le pilote. Le moteur, en revanche, c'était de la dynamite sur la V1, très creux et excessivement puissant, avec une marche à 8000 tours, oula, avec une marche à 8000 tours incroyable. Bon allez, je me concentre un peu.
Honda a écouté les critiques et a apporté quelques modifications à la CBR en 2022. Moins creuse à mi-régime, grâce à une cartographie moteur revue et une transmission finale plus courte, elle est un poil plus facile à piloter. Un poil.
Mais on sent quand même ce creux à bas-régime quand même. Avec cette marche qui n'est plus à 8000 tours mais à 7000. Oh merde. Drapeau rouge déjà. Ok. C'est l'hécatombe là. Encore un mec par terre. Ouh, puis celle-là est pas belle. Hein. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais ce qui est vraiment intéressant sur cette machine, c'est que ça faisait des décennies que Honda n'avait pas osé produire un moteur difficile à exploiter. J'entends par là un moteur très puissant et donc, par essence, un petit peu creux à bas régime. Honda, ça a toujours été la facilité d'exploitation, pas seulement le châssis, pas seulement les freins ou l'ergonomie, mais aussi l'utilisation du moteur. Alors, les Honda ont toujours eu cette réputation aussi d'être très facile d'origine et extrêmement performante une fois que vous y incorporez le kit HRC, Honda Racing Corporation. En fait, Honda font de très bonnes motos de route, y compris des motos sportives de route, mais si vous voulez une vraie moto de course Honda, il faut mettre le kit pièce.
Et justement, il est temps d'essayer cette véritable Honda CBR de course. Par rapport à la Fireblade de série, cette machine reçoit bien sûr une carrosserie complète racing et bulle haute, une transmission plus courte et variable selon le circuit, des suspensions Ohlins de grade supérieur, des commandes de frein, d'embrayage et des platines racing, une commande de frein arrière à main, des plaquettes de frein plus agressives, un boîtier électronique HRC afin de régler et optimiser l'électronique de la moto, et enfin une acquisition de données 2D pour analyser l'ensemble des informations de roulage.
Allez, parti. Déjà, je peux vous dire que la position n'a absolument plus rien à voir. Comme souvent sur des motos de course, on ouvre les demi-guidons, on donne plus de bras de levier. Je suis assis un peu plus haut sur une selle bien plus ferme, qui va forcément donc améliorer le feeling, le ressenti de ce qui se passe sous le train arrière. Et là, ce que je peux vous dire, c'est déjà qu'elle vibre beaucoup plus que la version standard. On a de la vibration. Alors, il vient de se passer un truc incroyable. Cette moto est allée toute seule exactement où je voulais aller, sans forcer sur la direction. Wow. Ok, il faut que je réapprenne tout là. Elle n'a strictement rien à voir avec l'autre. Déjà, je suis en rapport au-dessus. Et elle ressort. Oh la vache. Ferme. Elle est vraiment très ferme. Toucher du frein est très sec. Vraiment une machine impressionnante. Bon, ça n'est pas fait pour rouler aussi lentement. Je sens que je facilite pas la tâche. Allez, bébé, allez, 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 allez. Donc là, je viens de rentrer de mon premier run, découverte de la machine, le circuit pas bien en tête, donc sois gentil,
voilà.
Rigole pas trop, parce que je pense que rien que la forme des courbes, déjà, t'as envie de rigoler.
Ouais, je pense que déjà, il y a une grosse différence, mais on va essayer de superposer, de trouver les similitudes et puis de t'aider pour ton pilotage. Quoi.
Alors là, tu veux superposer les courbes d'Alan Teuchère,
voilà.
Donc en le fait, pilote en FSBK, voilà. Qui roule sur cette moto, avec mes courbes.
Avec tes courbes, ouais.
C'est pas très gentil de ta part.
Ça. On va quand même essayer de t'aider à progresser.
Bon, c'est cool. En fait, je la trouve hyper ferme et je la trouve très haute de l'avant.
Très
par rapport à une standard. À
l'origine. Là, ouais. Elle est beaucoup plus haute de l'avant par rapport à une moto d'origine.
Ah oui, on est d'accord. Mais j'ai cette sensation même, ouais, que exactement. Le train avant, il est hyper relevé quand tu montes sur celle-là.
Ouais, elle est 5-6 mm plus haute que la moto d'avant, même plus.
Wow, ouais.
Mais c'est en course. Alors, on a tendance à mettre les motos sur l'arrière, justement pour t'aider à rentrer sur les freins. Ouais. Et plus tu vas prendre du rythme, et plus ça t'aidera d'avoir cet avant-haut.
D'accord, ok.
Mais le début de cette progression passe par une longue liste de choses qui ne vont pas.
Tu vois déjà que tu arrives beaucoup moins vite. On a
pas obligé de le préciser.
25 km/h de vitesse.
Wow, et surtout, 25 d'écart.
Ta vitesse d'entrée n'est pas si mal que ça. Si on compare l'entrée dans le virage.
D'accord.
Mais par contre, tu te ralentis trop. À l'endroit où lui il accélère, en fait, toi tu es encore en train de finir ton freinage. Mais là, tu vois, comme tu es en train d'attendre, en fait, toi tu n'accélères pas entre les deux. Tu ne réfléchis pas, tu arrives au même point. Mais beaucoup moins vite et tu rattrapes après ton freinage, vraiment tu freines plus tard parce que tu n'as pas fait vraie accélération entre les deux virages quoi.
Ouais.
Là, tu remets pas franchement du gaz, tu vois,
ouais,
t'as semblant de réaccélération mais tu te laisses emporter par l'élan.
Ouais.
Tu passes 20 km/h moins vite et tu remets pas à fond pour autant quoi. Que tu as relâché, mais tu arrives moins vite, donc forcément tu es obligé de les relâcher sinon tu vas t'arrêter. Mais comme tu arrives moins vite, tu as été tenté de reprendre tes gaz plus tôt. Comme tu as repris tes gaz plus tôt, ça t'a fait relâcher parce que tu as eu l'impression d'arriver trop vite.
Bah, de ne pas réussir à reprendre la corde.
Voilà, exactement, tu as l'impression de ne pas avoir pris la corde. Ça t'a obligé de relâcher. Tu aurais dû normalement pouvoir arriver plus vite, garder tes freins un peu plus longtemps, comme tu le fais à l'âne, pour pouvoir commencer à réaccélérer. Ce qui est important, c'est que quand on réussit, on construit une réaccélération. On ne doit pas relâcher les gaz. Parce que du moment que tu relâches, tu perturbes tes suspensions et tu vas perturber tout ton virage.
Attends, redis-moi ça s'il te plaît.
Non. Et le gauche, c'est pareil, tu vois, tu as tendance, tu arrives moins vite, donc forcément tu vas moins freiner, tu as tendance à vouloir plonger dans ton virage et à remettre les gaz tôt. Et le fait de remettre les gaz tôt fait que tu as une vitesse de passage à l'endroit où tu voudrais encore te ralentir, un peu trop élevée, qui fait que derrière, tu vas être mal placé, ça va te renvoyer à l'extérieur, tu vas être mal placé pour accélérer sur tout.
C'est ça se voit, c'est flagrant.
C'est ça, même sur un train de virage, en fait, c'est le problème de tous les pilotes. Et on les englobe tout le monde parce qu'en fait, quand tu veux aller vite, tu essaies de jouer sur l'entrée.
Ouais.
Parce que tu as l'impression d'aller vite, mais en fait, il faut arriver à se ralentir sur ce moment-là, temporiser pour rentrer plus tard, pour justement être capable de rouler sa moto et de réaccélérer en sortie de virage. Mais ça, c'est une constante de tout le monde à tous les niveaux. Quoi.
Bon, écoute, je vais essayer d'appliquer tout ça, les bons rapports, les bons repères, et après éviter de reprendre les gaz ou de reprendre les freins.
Voilà.
Ce qui va découler normalement des bons rapports et des bons repères.
Exactement, et d'un chrono qui s'améliore.
Très bien, merci beaucoup.
Bon.
Rassasié de conseils auprès de l'ingénieur, on va essayer d'exploiter cette machine. Je dis bien essayer et juste convenablement. Donc là, le challenge, ça va être d'être sur le bon rapport et de rester au-dessus des 8 tours. Ça va être costaud. Voilà, j'arrive dans le virage, je suis déjà trop bas dans les tours.
Il va falloir rester très concentré, non seulement sur les repères, mais aussi sur les contours. La CBR se pilote comme une 600, et elle se mérite.
C'est ça toute la difficulté, c'est d'arriver à garder ses repères de freinage. Allez, repousser petit à petit, sans freiner excessivement fort et casser toute sa vitesse. Ah, toujours en dessous, je sens que je me rapproche de cette phase et je suis toujours en dessous. Ah, garde de la vitesse. bien les gars, je crois que c'est bon. Dans cette partie, j'ai réussi à rester au-dessus de 10 000 tours en deux. Je crois que j'ai réussi. C'est tellement dur. Honnêtement, jamais de ma vie, j'aurais cru qu'on pouvait exploiter une mille à des régimes moteurs pareils aussi longtemps.
Bon, donc globalement, j'ai à peu près exécuté ce que tu m'as demandé. À peu près, bon, il y a encore du boulot. On peut parler des, faire des vitesses comparatives, vitesse max et angle par rapport à l'âne, juste pour voir ce que ça donne.
On a un angle maxi d'Alan de 61 degrés.
D'accord.
Sur 100 tours. On voit que c'est répétable sur l'ensemble de ces tours. Il y a entre 60 et 61 degrés d'angle maxi. Et toi?
J'ai peur.
57. Parce que je n'ai pas regardé ton 39,1, mais en fait, on a 57 degrés. On a 4 degrés d'écart. Vous êtes à peu près à la même vitesse milieu de virage, sauf que tout est...
Sauf que lui, par contre, en fait, ouais, il arrive à accélérer avec autant d'angle. C'est qu'il a vraiment cette confiance dans l'électronique et dans les pneus.
Dans l'électronique, dans les pneus, et pas les mêmes pneus non plus. Et on roulait avec des pneus qui étaient plus performants que ce que tu as sur ta moto. D'accord. Qui permettent de plus accélérer sur l'angle également.
Ouais, parce que là, c'est incroyable. Genre,
Sachant que là, on est sur un tour chrono, donc le pneu est neuf. Donc, il a vraiment l'extra grip sur l'angle.
D'accord.
Donc, effectivement, et puis c'est un pilote qui remet beaucoup de gaz sur l'angle, surtout à cet endroit-là du circuit. Quoi.
Et bon, alors 57 degrés d'angle contre 61, 4 degrés quand même. Et en vitesse max, alors atteinte?
Alors, vitesse max atteinte, toi, tu as 265. 9, quand Alan est à 286.
20
km de différence. Alors, gaz à fond, il est 21% du temps, gaz à fond, sur un tour.
J'ose pas, j'ai peur. Donc lui, pendant 21% du tour, il est une poignée de gaz bloquée.
On a 6% du temps.
Putain, c'est un truc. Ah, la honte. Lui, 21% du temps, à fond, moi que 6% du temps. Waouh. Dur, hein.
Ouais.
6% du temps, je ferai la conversion plus tard, là, je sais pas compter, mais ça fait pas beaucoup de secondes quand même. Ok, bon, il y a du boulot. Hein. Je dis bon, il y a quelque chose à faire ou c'est mort?
Alors, je pense qu'il y a la base, mais faut travailler. Après, c'est peut-être pas la moto la plus facile pour.
Merci de me trouver des excuses.
Après toutes ces critiques constructives et déprimantes à la fois, il est temps d'aller serrer la main du pilote de la machine en question.
Alors pour ceux qui suivent un peu les sports mécaniques, on sait que tu fais de la vitesse depuis tout petit.
Ouais.
T'as fait des grands prix, t'as fait du Moto 2.
Du Moto 2 en Europe, championnat d'Europe, c'est ça ouais. On fait vice-champion en 2016. Et après, je suis parti en endurance parce que voilà, à un moment donné, j'avais la tranche d'âge, je voulais savoir qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je travaille et j'en fais un loisir, ou est-ce que j'en fais mon métier. Je suis parti en endurance parce que c'est là où j'ai pu gagner un peu ma vie en faisant ce que j'aime.
Bien sûr. Et là donc actuellement tu roules sur cette machine.
C'est ça. Donc ça, c'est ma machine de championnat de France, Superbike. Donc je fais deux championnats, championnat du monde d'endurance et le championnat de France FSBK avec tes motos. Donc c'est une CBR 1000RRR de 2000
SP.
C'est ça.
Ce qui est incroyable, c'est que j'ai parlé avec Jérôme, le gars qui fait la télémétrie. Et en fait, il me dit que je suis beaucoup trop bas dans les tours et que cette moto, elle se pilote comme une 600.
En fait, c'est ça qui est dur. C'est que moi, j'ai essayé plusieurs milles, soit des Yamaha, des BM ou des Honda. Et la Honda, la particularité, c'est qu'il faut vraiment être dans les tours. Alors quand on est sur la moto, c'est dur, c'est que ça crie énormément.
Ouais,
énormément. Avec les boules caisses, tout, tu vois. Le moteur, il va casser, quoi. Et en fait, elle a besoin d'être là-dedans parce que la plage d'utilisation, elle est très haute.
En fait, c'est fou parce que c'est terrifiant quand tu es sur la moto et que tu n'as pas l'habitude. Tu dis, mais attends, à ces régimes moteurs-là, je veux dire, avec une 600, 120 chevaux, je veux bien. Mais là, on est à plus de 200 chevaux à la roue arrière, quoi.
Et en plus, ce qui est dur, c'est que plus elle va crier, plus elle va aller vite.
Ouais.
Et le problème, les images arrivent vite aussi.
Ouais, c'est dingue.
Ouais.
Donc toi, finalement, cette moto, on va dire, quelles sont ses forces d'origine avant même d'être modifiée? Quand tu l'as essayé, qu'est-ce que tu as apprécié sur la Honda?
Alors, la moto d'origine, en toute honnêteté, moi, je pense, j'aime pas dire ça, mais je pense que je suis un produit Honda. Les premières 1000 avec lesquelles j'ai roulé, c'était des Honda, donc sur la FCC.
Ouais.
Et voilà, moi j'ai toujours aimé parce que ça ressemblait à des vraies motos de course. Un avant précis d'origine, je parle. Hein. Un avant précis, une moto assez agile. Donc les premières manquaient un peu de moteur.
Ouais.
Sur celle-là, Honda a corrigé ce défaut. Donc on a mis un moteur extrêmement puissant. La seule chose où peut-être j'aurais un truc à dire, c'est d'origine, elle a un barquet qui est très long, donc dur à utiliser sur le circuit.
Bah oui, et là donc elle tire beaucoup plus court.
Voilà, donc là ça tire beaucoup plus court. Donc là on est sur des braquets qui sont quand même beaucoup plus courts. Ouais. Et en fait c'est un missile.
Alors, d'accord, mais il se trouve que réduire le braquet, ouais, effectivement ça la rend un peu moins creuse, ouais, mais ça ne change pas son caractère moteur, on est d'accord?
Non.
Il y a quand même un caractère.
Quoi qu'il arrive,
y a ce truc.
C'est ça, quoi qu'il arrive, quand on n'est pas assez dans origine, si tu veux, on est sur l'angle, on commence à relever, et c'est là où le coup de cul arrive. Et c'est là des fois c'est même limite dangereux. Que si on est toujours en haut, déjà ça nous permet d'avoir beaucoup de freins moteurs, de nous arrêter. Et en plus derrière, en fait, on n'a jamais ce coup de cul. Donc moi quand je vais dire aux ingénieurs comme Jérôme, ouais, je vais dire pour moi la moto elle est très linéaire,
ouais,
parce qu'on n'est jamais en dessous de 10 000.
Waouh. Bon, en tout cas bravo, chapeau, ouais, pour l'avoir essayé, c'est une vraie moto de course. Pas simple.
Non, pas simple.
Franchement, elle inspire le respect, donc bravo pour ce que tu fais avec cette machine.
Est-ce que t'as pris du plaisir?
Oui, à mort.
Nickel.
À mort.
Nickel.
Frustré parce que tu sens les capacités, mais quand t'as pas l'expérience pour l'exploiter, bon bah tu fais qu'admirer et pas trop essayer. Mais c'était une belle expérience.
Ouais, c'est cool.
Merci pour ça.
Merci Banner.
Merci, c'est cool. Ciao.
Ciao.
Débriefing CBR 1000RRR Fireblade FSBK.
T'as une voix off avant ou un truc?
On verra.
D'accord. T'as roulé combien de jours avec la moto? C'était sur une journée ou deux?
C'était deux jours.
Ok.
Et franchement, il fallait au moins ça.
Ah ouais?
Ouais, très spécial à piloter cette machine.
Ok.
On l'a découverte ensemble, je ne sais pas si tu te souviens. Et on était parmi les premiers médias à recevoir cette machine en France.
Mm-hmm.
On a pu la tester sur le pôle mécanique d'Alès. Ce
n'est pas le meilleur endroit pour ça, mais
non.
Enfin, c'est un petit circuit et c'est une moto qui a besoin de place, on va dire.
Particulièrement la première version de la nouvelle Fireblade. Tu te rappelles à quel point elle tirait long, cette machine?
Je me rappelle que j'ai jamais mis la 3.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout le tour du circuit se faisait sur 2 vitesses.
Ouais.
Sur 6.
La deuxième, tu prenais 2,20, 2,30.
Ouais, je crois que c'était pas loin de 2,30 avant 2,35 au rupteur. Quoi.
Et, ouais.
Honda a retravaillé cette machine parce qu'il y a une phase 2 avec des améliorations, une démultiplication, donc légèrement raccourcie, et aussi un peu de gestion moteur, réglage d'injection, qui donne plus de couple à bas régime. Et effectivement, ça fait une différence.
Ouais.
Je te parle de ça parce que Honda a organisé cet essai avec le team donc de championnat de France Superbike, avec cette machine. On avait donc la version standard et la moto de course pour comparer. Et c'est vrai que déjà, j'ai découvert la piste de Nogaro que j'avais jamais... J'ai découvert la piste de... Donc j'ai découvert la piste de Nogaro, j'avais jamais roulé là-bas. Premier tour de roue, Fireblade stock. Elle est trop bien cette moto.
Déjà, ouais, moi j'ai réessayé du coup la version 2, c'est abusé.
Ouais.
Tu dis, ah oui, bah c'est ça. Enfin, t'as l'impression que celles d'avant, ils se sont ratés. Parce qu'effectivement, elle est creuse, elle ne ressort pas trop des virages en haut. Elle est très bien.
Tempête en haut, mais...
Mais tu te dis, oh, putain, pour aller chercher tout le temps en haut dans les tours et en profiter, c'est pas évident, surtout avec une 1000. Et la version 2, il y a genre plus de soucis.
Ouais.
Elle ressort des virages comme une 1000 normale et tu profites de toutes les qualités de la première version.
Ouais. Ça, c'est en termes de moteur, mais en termes de châssis, je me rappelle que quand tu l'as essayé au Ice Ride Festival, t'étais un peu sur le cul.
Ouais. Ouais, ouais, parce que très compact. Et surtout, je trouvais qu'elle tournait très naturellement. C'est ces motos où, une fois sur l'angle, tu lâches les freins et hop, ça y est, elle a pivoté. Quoi.
Ouais.
Tu vois, tu n'as pas à la forcer pour la faire tourner, en fait.
Écoute, c'était exactement la même sensation. Et en descendant de cette moto, je me suis dit, pff, en fait, déjà, d'origine, tu as ça. Tout est bien. Le bruit, parce que c'est une machine qui fait un bruit sublime dans les tours. Enfin, tu n'as rien à... Tu pourrais penser, en tout cas, quand tu essayes cette machine, qu'on ne peut pas l'améliorer franchement.
Ouais. C'est... Donc, quand tu as fait ton premier run avec celle d'origine, tu t'es pas dit « Ah, j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus de ça, un peu moins de
Alors,
ça. »
Honnêtement, ils m'ont proposé de changer les réglages, tout ça, mais tu arrives sur un circuit que tu découvres, ouais, sur une moto sur laquelle tu as fait 8 tours, ce serait quand même prétentieux de dire aux gens « Remets-moi 3 clics là, parce que je sens que l'avant, il fait 6. » Bon, tu te dis, bon, tu sais quoi, avant de changer quoi que ce soit, il y a de la marge. Et déjà, ça peut rouler très, très vite d'origine, cette machine. Mais bon, après, l'essai de la machine de Superbike France. Celle de Alan Teixeira.
Oui.
Pilote qui a notamment roulé en Grand Prix, extrêmement rapide, qui a roulé en endurance, bien sûr. Mm. Il roule avec cette machine en vitesse pure, donc en championnat de France Superbike. Et là, là c'est plus du tout la Fireblade d'origine, gentille, facile, non, plus du tout. Ça n'a plus rien à voir.
Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, le premier tour que tu as fait avec ?
En fait, c'est qu'elle est, elle est plus difficile en tout.
Ah.
Tout. C'est ouf, mais un exemple. La moto de route, la moto d'origine en tout cas, si on peut appeler ça une moto de route, quand tu touches les freins, il y a de l'attaque, il y a du mordant en direct. C'est même un peu perturbant parce qu'elle est très agressive sur la prise de frein. Tu arrives avec la moto de course, donc tu arrives plus vite au même repère de freinage. Tu prends les freins, il y a zéro mordant.
Ah ouais.
Rien. Rien. Putain, il n'y a pas de frein. Et en fait, dès que tu appuies, bam, c'est là qu'elle se met, tu ça perds reste. La stabilité. Ouais, c'est... mais après, ce mordant-là, ils l'ont enlevé. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Je crois qu'à un moment, ils m'ont expliqué qu'en fait, cette attaque très agressive du frein, elle n'était pas intéressante pour les pilotes parce que ça les empêchait de taper le frein vraiment très tard parce qu'ils étaient obligés de se concentrer, de mettre beaucoup de précision dans leurs gestes à la prise de frein.
Sinon, ça déstabilisait trop la moto d'entrée, en fait.
C'est ça, encore qu'ils sont capables de le gérer. Mais je pense que c'était plus une question de concentration. De dire, de toute façon, je tape les freins, je sais qu'il n'y a pas une attaque phénoménale, mais que la puissance, elle est après. C'est vrai que ça t'économise un petit peu d'énergie en termes de pilotage. Et c'est fou parce que c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. On s'attend à ce qu'un freinage soit encore plus agressif sur une moto de piste. Et en fait, il est plutôt l'inverse. Il est, au début, il ne freine pas, et puis après, il freine énormément. Et tout est un petit peu comme ça avec cette machine, si tu veux. Elle tourne moins bien. Tant que tu roules pas très vite.
Ouais, oui, bah, c'est une moto de course.
Voilà. Bon, bah, toi, tant que tu connais ça très bien, moi beaucoup moins que toi, et j'avoue que quand tu arrives là-dessus, déjà tu roules moins vite, mais c'est obligé.
Ah oui, d'entrée, c'est difficile de rouler vite. Juste, ça dit quoi là, le jour nuit là ?
Ne t'avance pas trop, Valère, sinon tu prends la lumière et je t'éclate le visage. Ouais, comme ça, c'est bon.
Okay. Est-ce qu'on peut reculer peut-être le...
Non, non, mais c'est bon, moi j'ai de la marge. Hein.
Ouais.
Tant que t'es dans l'angle comme ça, c'est
ok, bien. Je vais faire attention.
Ouais, ces motos, en fait, elles demandent d'avoir confiance en elles d'entrée. Tu vois, de pouvoir justement rentrer sur les freins, les coucher énormément pour les faire tourner. C'est ça qui est dur avec une moto de course, en fait. C'est que quand on dit il faut un niveau pour les exploiter, c'est qu'il faut plus forcer sur la moto pour qu'elle te donne ses meilleures capacités.
C'est ça. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quelqu'un qui était en charge de la télémétrie. Mm-hmm. Donc la moto, elle est bardée de capteurs. Pas les capteurs que tu as d'origine sur des machines, mais des capteurs supplémentaires, notamment typiquement des espèces de petits vérins qui viennent mesurer l'enfoncement des suspensions. Enfin, t'as plein de capteurs en tout genre comme ça qui permettent de voir exactement ce que fait la personne quand elle pilote cette machine. Et bien sûr, les enfoirés, ils ont comparé donc mes courbes avec celles d'Alan Teixeira.
Excuse-moi, mais t'as tout le temps le nez en fait qui passe. C'est sûr que tu veux pas qu'on recule. Ah, on se met la marge. Hein. Non, mais on recule genre de 20 juste que.
Ça change tout le large, quoi. Mais oui. Attends, mais je me recule juste un peu comme ça. C'est bon ?
Ah bah là, ouais, t'es tranquille. Oui, là, t'as de la marge. Ouais, voilà. Bah, au bout du nez, t'avais le truc. Ouais.
Ouais. C'est super, tout ça.
Bref. Est-ce qu'il faut refaire le point sur le large ?
Voilà.
Ah. Applique-toi. Hein.
Je fais de mon mieux.
Putain, ça fait tellement longtemps, je me rappelle plus grand-chose.
Elle était bleu, une, bleu verte, je crois.
Ou une Kawasaki, je sais plus. Bon, elle allait vite en tout cas. Ok.
Donc oui, vous avez superposé les courbes. Ouais.
Bon. Bon. Ok. Et bien évidemment, ces petits salopards, ils ont superposé les deux courbes. Donc les miennes avec celle de Alan Teuscher qui a, je crois, le record de la piste là-bas. Ou si c'est pas le cas, c'est pas loin. Et c'était assez affligeant, je dois avouer. Mais c'était quand même hyper intéressant de voir la différence de réactivité en fait d'un pilote qui connaît sa machine par cœur, qui connaît la piste, à quelqu'un qui découvre une moto de piste sur un circuit qu'il connaît pas. Donc bien évidemment, la plupart du temps, les courbes, les miennes étaient genre tremblotantes, hésitantes. On aurait dit que j'avais Parkinson et que.
Oui, par exemple, l'ouverture des gaz, on voit que tu, il va progressivement, t'en remets, t'en enlèves
un peu. Des crosses, oh putain, tu t'es chauffé, oh t'as coupé parce que t'as peur. En fait, quand tu connais par cœur et que t'as tes repères, ça n'arrive pas. Les courbes sont beaucoup plus binaires en fait.
Ouais, c'est 1 ou 0.
C'est ça. Et le gars de la télémétrie m'a dit qu'on reconnaît tout de suite un pilote rapide à la forme des courbes. C'est-à-dire que moins il y a de variables dans le pilotage, et plus le mec sait ce qu'il fait. En gros, il est soit en train d'accélérer fort, soit en train de freiner fort, mais ces hésitations ou ces « attends, je me recale, attends, je suis pas sur le… ah, j'ai trop ouvert et tout », ça n'existe pas en fait.
Ouais.
Et le challenge, ça a été pendant 2 jours d'essayer de se rapprocher un maximum de la forme de ces courbes. Mais c'était très, très dur.
Et du coup, à la fin, au bout de ces 2 jours, c'est sur quoi qu'il te mettait le plus en fait. C'était quoi le plus gros écart que vous aviez? Sur quelle phase de pilotage?
Clairement, l'accélération. Clairement, l'accélération, parce que en fait, c'est 40 mètres en fait, entre la corde et la sortie du virage. C'est le truc où eux, et ça se passe sans doute bien avant, parce que c'est vraiment une question de placement et de position. Le moment où tu commences à accélérer, si tu es mal placé dans ton virage, c'est foutu, quoi. Mmh. Souvent, j'avais trop d'angle au moment où lui, il était en train de redresser et déjà accélérer. Parce que moi, je me plaçais mal à la base et tout au début du virage, en fait. Mais oui, c'est clairement sur les phases d'accélération parce qu'eux, ils n'hésitent pas. On avait des pneus Michelin qui étaient très particuliers, qui généraient énormément de mouvements. Et Alan me disait, de toute façon, ces pneus, dans tous les cas, ils bougent. C'est-à-dire qu'ils adhèrent ou pas, ils donnent du mouvement. Donc, de toute façon, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller. Et à un moment, l'adhérence arrive. Bon,
oui,
je l'ai
écrit
sur parole, hein, parce que je n'avais pas très envie d'essayer. Mais c'est clairement l'accélération. Parce que les repères de freinage étaient à peu près les mêmes. Ils arrivaient plus vite. Et l'intensité de prise de frein, l'angle, il y avait, je crois, 2 degrés d'évolution. Il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Mais clairement, l'accélération.
Et est-ce qu'ils accéléraient plus tôt ou plus tard que toi?
Plus tôt.
Ah oui, quand même.
Ouais, plus tôt. Mais clairement, j'avais un problème de trajectoire et moi, j'arrivais pas à accélérer avec cette moto. Impossible.
D'accord. Et sur quelle phase de pilotage tu étais le plus près d'eux? Où est-ce qu'il y avait le moins d'écart?
Au niveau, le secteur qui relie le box aux toilettes. Là,
ah ouais,
sur cette zone-là,
ouais,
j'étais même plus vite
proche
une fois ou deux. Je suis allé pisser plus vite que. Je crois que je ne me suis jamais rapproché d'une quelconque phase de pilotage d'Alan. Je n'ai pas réussi en 2 jours.
Ah ouais.
Enfin, c'était pas en 2 jours. En tout, on a eu 5 sessions, si tu veux. 5 sessions de 15 minutes. Donc, tu prends du. Ouais, si, le repère de freinage, quoi. Tu arrivais à peu près en termes de vitesse. Je crois qu'à la fin, j'arrivais. Peut-être que la vitesse max ils atteignaient, je te dirais une bêtise, genre 280, et moi j'étais à genre 275, tu vois.
Ah oui.
En termes d'approche de vitesse, quoi.
D'accord.
Ouais. Au niveau de la vitesse max arrivée au bon repère, ça j'étais à peu près pareil. Par contre, la phase d'accélération, je me faisais vraiment démonter, quoi. Mais à ma décharge, la Fireblade, c'est vraiment une moto très spécifique à piloter. Alan, qui a beaucoup d'expérience en compétition, m'a dit qu'en fait, cette machine, elle se pilotait vraiment comme une 600 qui faisait 230 chevaux, ce qui est terrifiant. Parce que pour les gens qui ne savent pas, une 600, bah forcément, ça se pilote très haut dans les tours parce que c'est le seul endroit où il y a vraiment la puissance et on ne reste jamais en bas.
Mmh.
Sauf qu'une 1000, normalement, tu as quand même plus de cylindrée, donc plus de couple
Et le moteur, il a moins de difficultés à ressortir des virages à moyen et moyen haut régime, on va dire. Sauf elle, qui, malgré les évolutions, reste quand même creuse en bas. Et Alan m'a dit que cette machine, de toute façon, se pilote uniquement entre genre 10 000 et 15 000 tours. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et il m'a dit que même en championnat de France Superbike, quand les autres... Et il m'a dit que même en championnat de France Superbike, la première fois qu'il est sorti avec cette moto, que les autres pilotes entendaient la machine hurler dans les tours, tout le monde a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, mec ? C'est de casser le moteur ?» Ou team manager et tous les gens qui roulent sur d'autres, chez d'autres constructeurs, quand ils ont entendu la Fireblade rouler la première fois, ils se sont dit que le pilote cherchait à casser le moteur, vraiment. Et on dit « Non, mais le gars, en fait, elle se pilote comme ça, cette moto. » Et même Alan a dit que ça lui prenait énormément de temps et d'énergie au début de se concentrer sur ce régime moteur pour rester en haut.
D'accord.
Obligé de la cravacher et de rester tout le temps. Mais tu sais que j'ai essayé, j'ai jamais réussi en fait. Je crois que le mieux que j'ai fait, c'était peut-être un tour où je suis pas descendu sous les 7000. Ce qui est déjà, pour moi, c'était difficile en si peu de temps avec cette moto. Mmh. Mais il fallait être encore bien au-delà. Sauf que quand tu es à 10 000 tours avec une 1000,
c'est très très pétard quoi.
Tu es sur le filet de gaz là. Et que tu dois sortir du filet de gaz pour t'extraire du virage, bah c'est là où je me faisais démonter. C'est que, tu vois, Alan, justement, il y avait aussi Mike Di Meglio. Les deux, ils n'hésitent pas, quoi. Ils y vont.
Parce qu'ils se reposent sur l'électronique ou parce qu'ils ont une... Justement, leur ouverture des gaz en sortie de virage, est-ce qu'elle est linéaire? Est-ce qu'elle est franche?
Elle est linéaire, mais rapide, mais courte. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne font jamais ça. Tu vois, ils font toujours... En fait, c'est toujours très progressif, c'est toujours progressif, mais rapide. Ce que m'a dit le télémétriste, c'est que il m'a demandé, est-ce que tu l'entends se déclencher le traction control? Non. Il dit, ça m'étonne pas. C'est une des rares motos où, en fait, l'électronique est tellement subtile et fine.
Quoi? Ça te fait le reflet de la montre sur le visage.
C'est une catastrophe. Il m'a dit, il y a beaucoup de machines en fait du marché où le pilote sent le traction control. Soit il l'entend, soit il sent une vibration, soit il sent qu'effectivement le traction control est actif. Sur la Honda, c'est très difficile à ressentir. Et ça, c'était un problème qu'avait Alan au début et Mike Di Meglio. Ils avaient un doute sur le fonctionnement du traction control en disant au gars, vous êtes sûr qu'il fonctionne parce que je sens rien. Hein.
Ouais.
Oui, si, si, on le voit, ouais, la télémétrie,
c'est
il fonctionne.
C'est qu'il est très fin alors.
C'est qu'il est très fin. Typiquement, cette machine et d'autres, je pense, mais comme il m'a expliqué le fonctionnement, je vais te l'expliquer. Quand tu es à plus de 45 degrés d'angle, quelque chose comme ça, en tout cas, plein angle, tu n'as que deux cylindres qui marchent.
D'accord.
Tu n'as pas les quatre. C'est ce qui fait que quand tu la redresses et que tu accélères, à un moment, quand les deux autres cylindres se mettent en route, tu as un à-coup, mon gars.
Ah ouais.
Et ça, ils n'arrivent pas à le juguler. Il m'a dit, à un moment donné, de toute façon, quand il y a les quatre qui se mettent en marche, on a cet à-coup et on n'arrive pas à le calmer, quoi. Enfin, tout ça, c'est ouf parce qu'on a l'impression qu'on parle d'une moto... genre des années pop, genre un deux temps, terrifiant, difficile à piloter.
En caractère, ouais.
En caractère. Tu vois, ouais. Quand je te décris ça, tu dirais pas que c'est une Honda de 2020, mais cette Fireblade, elle est vraiment comme ça.
Mais quand même, au contraire de ces deux temps, des années pop et tout, est-ce qu'il y a des moments où tu avais peur et où tu te disais, là, si je fais la moindre erreur, je vais chuter? Ou est-ce que tu te disais juste, si je fais la moindre erreur, je vais être moins rapide?
Non, la deuxième version, ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que ça reste quand même extrêmement... c'est dur à exploiter, mais c'est facile à conduire.
Ouais, c'est
tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est très dur de faire un chrono avec une moto comme ça quand tu ne la connais pas. Mais par contre, n'importe qui peut faire le tour, mettre un peu d'angle, accélérer franchement, freiner un peu tard, n'importe qui peut faire ça avec. Par contre, rouler vite avec, oui, ça demande du métier. Il ne faut pas oublier que ces gars-là, les Mike Di Meglio, Alan Teixeira, il y a même des gars qui étaient en Grand Prix, Mike Di Meglio, champion du monde 125, champion du monde d'endurance. De moto, ouais. C'est des gars, ouais, ils savent piloter. Et quand même eux, ils te disent, ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud avec elle, hein. C'est dur. Franchement, ça impose le respect, quoi. Et même eux, ils sont d'une humilité, tu vois, face à une machine comme ça. Ils étaient là pendant deux jours à tester les réglages, les suspensions. C'était magnifique à voir. Tout ce balai, là, d'ingénieur télémétriste qui était avec eux. Tu sens que cette moto, cette Fireblade, elle est quand même particulière. Elle n'est pas donné à tout le monde de l'exploiter. Et c'est ce qui rend l'objet assez beau, je trouve, aussi.
Ouais. Et du coup, si tu avais le choix, on te dit, voilà, vas-y, prends-en une. Tu as la stock ou celle de FSBK pour rouler sur ta journée piste.
On voit la stock. Hein.
Ah ouais.
Ah oui, oui.
Ok.
Bah oui, parce que les limites sont déjà tellement loin. Mais après, alors, il y a un truc, c'est que quand tu montes sur la stock, tu fais tes tours, toi tu dis, putain, c'est ferme, c'est raide, c'est, putain, c'est... Tu montes sur la moto de course, c'est pas raide, ça va me casser le coccyx en deux, c'est un morceau de béton en fait, tellement c'est dur. Et tu remontes après sur la stock pour comparer, et là t'as l'impression que c'est sur une Goldwing.
Oui, oui.
D'un coup tu te dis, ah mais ce qui n'était pas confortable en fait, avant que j'essaie la moto de course, c'était un canapé en fait. Elle est hyper molle, t'as l'impression que t'es assis sur l'arrière, même au niveau du ressenti, tu vois, tout est absorbé par les suspensions un peu molles et par cette selle, tu vois, qui est un peu molle. Sur la moto de course, tout est beaucoup plus voilà, rigide. Tu es au contact direct, tu sors de la poignée de gaz, mais vraiment, tu sors du TP0, tu as tout de suite une réaction. Alors que l'autre, tout est plus enrobé, plus. Voilà. Donc, ouais, pour du track day classique, c'est déjà le cas chez tous les constructeurs. Hein. Aujourd'hui, toutes les sportives sont extraordinaires. Tu les sors de caisse, tu désactives l'ABS, tu mets deux bons pneus.
Oui, oui, oui.
Et encore, désactiver l'ABS, c'est pas toujours nécessaire.
Bah après, là, je pense que si tu re-avances, mais là, tu vas avoir que du soleil. Hein.
Ah ouais, mais là, c'est too much. Allez, bientôt fini.
Et du coup, si tu dois la comparer à une autre moto que tu connais très bien, c'est la Yamaha R1.
Ouais.
Je crois que tu avais la tienne en plus sur cette journée et tu as roulé avec les deux motos.
Ouais.
Quelles sont les différences entre les deux?
La R1, elle est tout de suite facile, en toutes circonstances. C'est que la plage de régime d'utilisation d'une R1 par rapport à celle de la CBR est immense. La R1 allonge moins. En sensation pure, en tout cas, En sensation pure, tu as vraiment l'impression de passer les vitesses plus tôt et d'être parti de beaucoup plus bas et que ça le fait, ça tracte, quoi. Très facile, le moteur crossplane à moyen régime. La Honda, elle est plus dure, elle est plus exigeante. Mais c'est ce qui la rend un peu plus excitante aussi à piloter. Elle te challenge, tu vois, cette moto, en fait.
Ouais, elle se mérite.
Elle se mérite. En châssis, je préfère la Honda
que
la Yam. Voilà, donc tout le moteur de la Yam pour les bas régimes. Mais pour tout le reste, la Honda...
Ah oui, tu prendrais la Honda juste avec les bas régimes de la Yam. Même pas un bout de la...
Ah, ça serait la moto ultime pour moi. Ah ouais, à mort. Ce serait incroyable.
Et du coup, tu la conseillerais à quel type de pistard, la CBR1000?
Bah, soit quelqu'un qui a vraiment de l'expérience pour pouvoir l'exploiter comme il faut, c'est-à-dire à haut régime, parce que c'est pas donné à tout le monde, ça. Soit juste quelqu'un qui s'en fiche du chrono et qui veut juste une belle moto qui fait un joli bruit et où il n'y a rien à changer. Un fan de la marque pourra complètement prendre une Fireblade s'il a envie de faire de la piste et qu'il n'est pas focalisé sur le chrono. S'il est focalisé sur le chrono, qu'il fait beaucoup de track day, qu'il veut vraiment rouler vite et tout, c'est une moto qui va être plus challenge, qui va plus le mettre en défaut, qui va être moins facile à exploiter. C'est pas un hasard si on voit plein de R1 partout. Elles ont la réputation d'être accessibles en termes de pilotage et moins de Honda parce que moins accessible en termes de pilotage.
Et un peu plus cher en pièces.
C'était l'inverse avant.
Ouais.
Avant, c'était les Honda qui étaient extrêmement faciles. Ouais, c'était la moto de monsieur tout le monde. Bah, depuis la nouvelle Fireblade et encore plus cette phase 2, c'est le monde à l'envers, quoi.
Et en termes de chrono, est-ce que tu as fait des chronos avec la moto d'origine et la moto FSBK?
J'ai fait les mêmes temps sur les deux motos.
Ah oui?
Ouais, vraiment.
Ok.
Après, comme de toute façon, tu connais pas le circuit, tu connais pas la moto, t'es pas là vraiment pour faire des chronos, tu testes des trucs, tu vois. Tu testes des choses d'un virage à l'autre, tu testes un freinage, tu dis, ah, tiens, pas mal. Mais à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais aller claquer une pendule, quoi. Mais j'ai fait les mêmes temps, en fait. J'ai roulé en 37 sur les deux, quoi. Je peux pas vraiment répondre à cette question parce que du coup, je me suis pas dit, allez, je vais essayer de me challenger.
Et tu roulais dans les mêmes chronos avec ta R1 que tu connais bien aussi?
Ouais. 37. Un peu plus vite, je crois. Ah, sur ma R1, un peu plus vite, ouais.
Mais c'est plus grâce à l'habitude que tu as de la moto que
vraiment. Non, pour le coup, c'est juste parce que j'essayais de plus faire des trucs avec ma R1.
Ok.
Donc, c'est pas vraiment une question. C'est pas vraiment une réponse intéressante. La question était très intéressante, je ne vais pas te vexer.
Non, bah, tu l'as dit quand même. Hein. Mais bon.
Okay, bah voilà, écoute. Non, belle découverte et je pense que bah, ça donne envie en fait, de comprendre, de connaître cette machine et d'aller plus loin, quoi.
Ouais. Oui, de comprendre son fonctionnement, comment l'exploiter, comment...
Ça serait cool de faire un hypertest. Franchement, en vrai, les comparer ouais. toutes. Parce qu'à chaque fois que j'en essaye une et que je descends d'une moto, je me dis, prends celle-là. Non, mais c'est vrai. Et je pense que ça te fait la même chose. Il n'y a pas une de ces bonnes sportives où on descend, on se dit, bon, elle, pas ouf.
Ah non, non, bah non, c'est ouf à chaque fois.
Et dire et, ouais, elle, ça, et arriver à les classer, franchement, juste en sensation, pour moi, c'est impossible. Elles sont toutes très différentes à piloter, mais je pense qu'en termes de chrono, elles sont extrêmement proches.
Ah oui, oui. Oui, je pense qu'elles sont dans la même seconde. Il y a une seconde d'écart entre la première et la dernière.
Tu vois, on l'a dit en même temps. Je pense qu'elles sont dans la même seconde et pourtant si différentes. Il ouais. faudrait qu'on se le fasse quand même, l'hypertest. Hein.
Carrément.
Non, pas maintenant parce qu'on est fin décembre et ça caille un peu. Mm. Et bientôt.
Avec plaisir.
Enfin, non, pas toi. Hein. Toi, tu prends les chronos. Moi, je roule.
Oui, bah oui, je viendrai voir ça.
Ouais, tu. Regarde-moi bien.
Hein. Merci.
Ouais, c'est bon. Coupette.